lire un psaume qui vient de David, le psaume 23. Le psaume 23, nous venons le lire avant de prier. Le Seigneur est mon berger, je ne manque que de rien. Verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit au bord des ruisseaux. Le verset 3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton de berger et ta houlette sont ma consolation. Verset 5, tu dresses pour moi une table abondante sous les yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et tu remplis ma coupe. Verset 6, seul le bien et l'amour m'accompagneront toute ma vie et je retournerai à la maison du Seigneur pour une longue suite de jours. Jusqu'ici, ces précieuses paroles du grand homme de Dieu, je pense que c'est aussi notre prière. Nous ne pouvons pas nous empêcher de crier exactement ces mots. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si nous marchons avec le Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons alors pas à nous inquiéter. Bien que ce grand homme de Dieu ait connu diverses tribulations, il n'a cependant pas perdu sa confiance, son espérance et sa foi, mais il les a affirmés dans le Dieu vivant. Et c'est aussi ce que nous pouvons dire en ces jours, car nous vivons sur la même terre, dans le même monde. Les hommes ne se sont pas encore améliorés, mais ils ont peut-être empiré. Et nous devons peut-être passer par certaines choses, mais nous restons attachés à celui qui a pris soin de nous. Et c'est le Dieu vivant. Et il est le Dieu de son peuple. Et il s'est choisi une troupe parmi les nations et il a rassemblé son peuple d'Israël. Nous voyons tout cela avec des yeux divins par la grâce de Dieu. Et ils ont à passer par certaines difficultés et nous avons aussi à passer par certaines difficultés. Mais nous levons les yeux vers le Dieu vivant. Ce soir encore, nous sommes venus adorer notre Dieu. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Au fond, David aurait pu dire et douter. Il a dû fuir tant de fois et faire ceci et cela. Mais il a dit, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit au bord des ruisseaux, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Maintenant, bien-aimé, Dieu connaît le bon chemin pour les enfants des hommes. Il a connu le bon chemin pour conduire David. Il connaît également le bon chemin sur lequel il conduira et conduira son peuple en ses jours. Nous sommes donc heureux et reconnaissants d'être réunis ici ce soir et c'est une joie particulière pour nous que nos chers frères d'Israël soient parmi nous. Nous sommes réunis ici tous les mercredis soirs pour une heure de prière et pour rendre gloire à notre Dieu. Et nous nous souvenons toujours de vous dans nos prières et nous nous souvenons de tout le peuple d'Israël et de tout le peuple de la terre entière devant le Dieu vivant. Maintenant, nous voulons nous lever et adorer Dieu. Père Céleste, nous de tout cœur pour ce jour de grâce que tu nous as accordé, nous voulons te remercier. Nous te remercions, ô Dieu, de nous avoir permis de nous réunir ici et d'invoquer ton saint nom en ce lieu. Toi, le Dieu du ciel et de la terre, toi, le Dieu de ton peuple, Israël, tu es aussi notre Dieu. Tu as pris soin de nous tu nous as accueillis, ô Seigneur, et c'est pourquoi notre âme te loue et exalte ton nom, ton saint nom également, en cette heure du soir. Sois loué, sois exalté, ô Dieu. Toi, Seigneur, tu es notre Seigneur, tu es notre bon berger, tu nous conduis dans le droit chemin, tu nous conduis vers les eaux paisibles, comme David l'a proclamé. Tu le fais aussi avec nous, ô Seigneur, et c'est pourquoi nous t'adorons et exaltons ton nom glorieux. Seigneur, bénis comme on l'a déjà prié ton peuple d'Israël, surtout en ces jours, accorde au Seigneur les justes dispositions aussi aux autorités, au Seigneur. Seigneur, nous te prions de diriger et de guider toutes choses de manière admirable comme elles doivent l'être selon ta volonté. Nous te remercions pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remerciement au Seigneur, car nous pouvons savoir qu'il conduit jusqu'au but. Et le but est d'être unis à lui profondément pour l'éternité. Être là où l'homme était avant la chute, en communion avec Dieu, sans maladie, sans péché, sans mort, sans difficulté, sans devenir vieux, sans rien de ce que nous avons ici dans ce corps. Et c'est bien la raison pour laquelle le Seigneur Dieu devait descendre en tant qu'esprit dans un corps de chair dans lequel nous nous trouvons afin d'y accomplir la rédemption pour que nous ayons la possibilité d'être retransformés de ce corps de chair en un corps spirituel. C'est en fait la somme de toute la rédemption. On peut prêcher beaucoup de choses à ce sujet, mais cela se résume à l'essentiel dans cette phrase. Dieu lui-même s'est fait homme pour ramener les hommes à la condition que Dieu leur a donné pour toujours. Eh bien, nous sommes honorés par la visite de frère Goldner et de frère Jigal, avec sa femme et son fils. Et nous vous accueillons vraiment, ça vous le savez. Les mots me manquent parfois, on ne peut pas l'exprimer ainsi, mais vous le savez, tous les deux, c'était le coup de foudre et la communion dans le Seigneur, notre Dieu, dès le début. Frère Goldner, lève-toi un peu, que les gens te voient. C'est notre guide de voyage sur la terre d'Israël. Et je peux vous dire en sa présence, ce n'est pas un secret, il n'y a pas de meilleur guide dans tout Israël. Frère Jigal, lève-toi un peu, toi aussi. C'est lui le chauffeur de bus. Et il n'y a certainement pas de meilleur chauffeur de bus que lui dans tout Israël. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Merci. Il y aurait tant de passages bibliques à lire. Et nous pensons en particulier à ce passage de Deutéronome où Dieu dit, où trouverait-on sur la terre un autre peuple que Dieu ait choisi, le plus petit de tous les peuples, mais dont il a fait le plus grand. Telles sont les voies de Dieu. Si nous regardons en arrière sur Abraham, au bord de l'Euphrate, à Ur en Chaldée, un homme ordinaire, soudain, un homme de Dieu, un prophète, un homme dont le nom ne pourra plus jamais être effacé, car il a fait une rencontre avec Dieu. Un homme à qui Dieu se révèle reste encore un homme, mais il devient un autre homme. Il est transformé, changé intérieurement et a un lien à la relation avec Dieu. Et cela ne changera pas de toute éternité, de toute éternité. Si nous écoutons ainsi les informations, je n'ai pas pu le faire aujourd'hui, mais nous savons bien ce qui se passe. Et nous connaissons aussi les projets des politiciens. Mais Dieu dit qu'ils fassent un projet, je le réduirai à néant. Et Dieu réduira à néant les projets des païens. Et il fera son propre projet de salut, car le projet de Dieu n'est pas seulement un projet. C'est un projet de salut, un dessein de salut. Dans ce que Dieu a décidé, il n'y a pas seulement une décision. Les hommes peuvent la prendre. C'est une décision ici de salut. Le salut est dans tout ce que Dieu décide, dans tout ce qu'il promet. Dans l'alliance avec Abraham, il y avait des promesses. Le salut, la bénédiction, tout était inclus dans l'alliance. Et j'ai pensé à cette parole lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. En fait, ce sont deux pensées qui m'ont ému et touché. La première, parce que nous avons chanté le sang de l'agneau de Dieu. Et j'aimerais justement lire des passages de la Torah à nos amis afin qu'ils sachent quelle signification cela avait déjà à l'époque de Moïse. Mais la première chose qui m'a frappé, c'est Exode 14. Exode 14, il est dit au verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer. Et la mer retourna à son ancien lit au lever du jour, tandis que les Égyptiens s'enfuyaient à sa rencontre. Et le Seigneur précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Verset 28, car lorsque les eaux se retirèrent, elles couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer derrière eux, de sorte qu'aucun d'entre eux ne resta en vie. Mais les Israélites avaient traversé la mer à pied sec, alors que les eaux étaient comme un mur à leur droite et à leur gauche. Verset 30, c'est ainsi que le Seigneur sauva les Israélites de la main des Égyptiens ce jour-là. Et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Verset 31, mais quand les Israélites virent le grand miracle que le Seigneur avait accompli sur les Égyptiens, le peuple craignit le Seigneur et ils crurent au Seigneur et à son serviteur Moïse. C'est une parole merveilleuse. Ce n'est pas seulement une histoire que quelqu'un a écrite. Cela s'est produit. Dieu a fendu la mer à cause de son peuple pour le faire sortir. Et celui qui regarde une fois la carte pourrait dire oui, Dieu aurait pu faire le tour par ici en passant par le Caire et il aurait quand même pu contourner la mer Rouge. Mais Dieu trace un chemin là où il n'y a pas de chemin du tout. S'il avait passé par le Caire et ainsi par le petit pont, il n'aurait pas eu la possibilité de couvrir toute l'armée de Pharaon, tous ses chevaux et tous ses chars. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement comment attirer l'ennemi dans un piège et comment le couvrir pour qu'il ne soit plus là. Les hommes ont vraiment toujours d'autres plans. Et l'on entend même les plus grands théologiens, si l'on se contente de lire les passages où ils s'expriment. Oui, si Dieu n'avait pas été là, si Dieu n'avait pas. Comme s'ils voulaient conseiller Dieu et pensent qu'il n'a pas assez étudié la carte. C'est pourtant Dieu qui a fait la terre, les fleuves et les mers, avant que les hommes ne les dessinent et ne les étudient. Dieu savait déjà tout, mais il a déjà organisé et dirigé d'une manière glorieuse. Or, il est dit ici que les Égyptiens ont fui. Ils ont fui dans la mauvaise direction. Ils n'ont pas fui loin des eaux, mais ils ont fui vers les eaux. L'avez-vous lu avec nous? Je le relis volontiers. Il est dit ici, Exode 14, 27, pendant que les Égyptiens, donc, vers la mer, vers les eaux, ils s'enfuirent droit devant eux et le Seigneur les précipita dans la mer. La plupart des gens fuient la destruction, mais ils ont fui dans la destruction. Il n'y avait pas d'échappatoire pour eux, car ils s'étaient rebellés contre le peuple du Seigneur. Et Dieu a fait passer son peuple à pied sec, tandis qu'il a laissé les Égyptiens se noyer. Il a dit ensuite, verset 31, « Quand les Israélites virent le grand miracle que le Seigneur avait accompli sur les Égyptiens, le peuple craignit le Seigneur. Et ils crurent au Seigneur et en Moïse, son serviteur. » Auparavant, j'ai été frappé par une parole qui, dans l'Ancien Testament, est l'un des nombreux passages où de nombreux passages qui témoignent déjà du salut par le sang. Exode 12, il est dit au verset 3, « Donnez à toute l'assemblée d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, prenez chacun un agneau pour chaque famille. » Alors, vous pouvez lire la suite, il fallait l'égorger. Le verset 7, il est ensuite dit, écrit, au verset 7, « Ils prendront ensuite un peu de ce sang et l'appliqueront sur les deux montants de la porte et sur le linteau des maisons où l'on fait le repas. » Verset 8, « Ils mangeront ensuite la chair cette même nuit-là. » Puis peut-être du verset 12. « Car je marcherai cette nuit-là par le pays d'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de l'Égypte, tant des hommes que des animaux. Et j'exercerai un jugement contre tous les dieux d'Égypte, contre tous les dieux égyptiens, pardon, moi le Seigneur. Verset 13. Alors, le sang sur les maisons où vous vous trouverez sera un signe pour votre protection, car quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Je passerai sur vous en vous épargnant et vous ne serez pas atteint d'une destruction mortelle quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous voyons donc que lors de la sortie d'Israël d'Égypte, il fallait égorger l'agneau pendant la nuit et appliquer le sang sur les montants de la porte pour que l'ange étrangleur passe. Et la parole de Dieu dit, et le Seigneur dit, quand je verrai le sang, pas quand je verrai le bois, le fer, les ornements, quand je verrai n'importe quelle chose, la serrure ou autre chose, non, mais plutôt quand je verrai le sang sur les maisons, pas un gardien, pas un homme, mais le sang. Qu'est-ce que c'était? L'agneau devait donner sa vie à la place des premiers-nés de cette, à la place du premier-né de cette maison. Ou bien alors à la place des premiers-nés de ces maisons. Et le sang de cet agneau devait être appliqué sur les montants de la porte. Maintenant, l'ange étrangleur ne pouvait plus rien faire au premier-né, car un agneau avait versé le sang, avait donné la vie pour ce premier-né dans la maison. C'est pourquoi Christ, l'agneau de Dieu, est appelé le premier-né, le premier-né. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il fallait qu'il donne sa vie, qu'il fasse couler son sang, afin que nous ne soyons pas étranglés et livrés à la mort, mais que nous puissions, par la grâce de Dieu, recevoir la vie éternelle et servir le Seigneur notre Dieu. Aucune corruption mortelle ne pouvait frapper le premier-né. Pourquoi cela n'est-il pas arrivé? Parce que le sang de l'agneau avait coulé. Lorsque Moïse ou le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël, il s'est passé quelque chose de tout à fait miraculeux au chapitre 24 après la législation que je trouve principalement dans Exode 20. Il est dit ici dans Exode 24 à partir du verset 3, Exode 24 du verset 3. Moïse vint ensuite informer le peuple de toutes les ordonnances du Seigneur et de toutes les lois. Alors, tout le peuple fit unanimement cette déclaration. Nous exécuterons toutes les ordonnances que le Seigneur a publiées. Verset 4. Moïse écrivit donc tout ce que le Seigneur avait ordonné. Et le lendemain matin, de bonne heure, il bâtit un autel au pied de la montagne et 12 pierres correspondant aux 12 tribus d'Israël. Verset 5. Puis, il donna l'ordre aux jeunes hommes israélites d'offrir des holocaustes et d'égorger des jeunes taureaux en sacrifice de salut pour le Seigneur. Verset 6. Moïse prit alors la moitié du sang et le versa dans les coupes de l'offrande et il aspergea l'autre moitié du sang sur l'autel. Verset 7. Ensuite, il prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple et ils déclarèrent, nous ferons tout ce que le Seigneur a ordonné et nous l'accomplirons de bon cœur. Verset 8. Moïse, ensuite, Moïse, ensuite, prit le sang et en aspergea le peuple en s'écriant, ceci est le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur la base de tous ses commandements. Ainsi, la conclusion de l'Alliance de Dieu avec Israël a pris force et entrée en vigueur a pris force de loi grâce au sang versé et entré en vigueur grâce au sang versé. Ceci est le sang de l'Alliance. Une alliance sans sang aurait été un contrat humain. Une alliance avec l'asservissement, la vie exposée, le sang versé a une signification divine au fond depuis la chute, depuis le jardin d'Éden, lorsque Dieu le Seigneur a revêtu les premiers hommes de peau. Un animal a dû donner sa vie. Car avant que Dieu puisse avoir une peau pour habiller l'homme ou les hommes, il fallait qu'un animal perde la vie. Il fallait qu'il y ait un animal là qui perde sa vie pour que cette peau soit là. Dès le début, depuis le jardin d'Éden, depuis la chute, Dieu a laissé entendre par les nombreux sacrifices que le sang devait couler pour la réconciliation, la protection et le salut. Tout cela constituait des indications pour le Nouveau Testament. Et nous pourrions lire dans les quatre évangiles et il y est écrit pendant le repas de la Pâque. Le Seigneur prit le pain, rendit grâce, le rompit et dit, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Puis il prit la coupe, la bénit et la donna à ses disciples en disant, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. De quoi s'agissait-il? C'était le passage de l'Ancien au Nouveau Testament, de ce qui est passager à ce qui est éternel, des ombres indiquant l'avenir et à la réalité elle-même. Sur la croix, à Golgotha, sur le lieu du crâne, ce n'est pas du sang humain qui a coulé, mais du sang divin, le sang divin, le sang de notre Seigneur lui-même. Et nous remarquons, Moïse a aspergé du sang, non seulement l'autel, non seulement le livre de l'Alliance, mais aussi le peuple qui s'y était joint et avec lequel Dieu avait conclu cette alliance. Une référence au Nouveau Testament, à savoir que le Seigneur a conclu une alliance à Golgotha et que cette alliance a pris force de loi, est entrée en vigueur. Le sang de l'agneau de Dieu a coulé et le peuple de Dieu est sous la protection de ce sang divin. Et l'ange étrangleur Satan doit passer. Il ne peut pas nous tuer. Je veux dire, nous tuer spirituellement parce que Dieu nous a donné la vie éternelle par grâce. Comme c'est merveilleux que nous puissions voir les choses de l'Ancien Testament si clairement à la lumière du Nouveau Testament. Et vous savez, ce qui s'est passé ensuite est la plus grande chose qu'un homme puisse souhaiter et imaginer. Après que Moïse eut lu les ordonnances et répandu le sang de l'aspersion sur l'autel et sur le peuple, il dit, ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous en vertu de tous ses commandements. Directement après cela, il est écrit, au verset 9, après cela, lorsque Moïse et Aaron, Nadab et Abihu et 70 ou bien 70 des anciens d'Israël montèrent. Et au verset 10, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Il y avait comme une structure de plaques de saphir et comme le ciel lui-même d'un éclat lumineux. Verset 11. Mais il n'a pas étendu sa main contre les élus d'Israël. Non. Ils ont vu Dieu et ils ont mangé et bu. Ici, Dieu a montré que les élus ne restent pas en bas, mais peuvent monter et entrer dans la directe présence de Dieu en raison du sang versé, en raison de l'alliance que Dieu a conclue avec eux. Ils contemplèrent, est-il dit, le Dieu d'Israël. Et il est décrit avec précision comment cela ressemblait sous ses pieds à des plaques de saphir et comme le ciel lui-même à un éclat lumineux. Qu'est-ce que c'était? Le ciel s'était abaissé sur cette terre. Dieu le Seigneur était descendu lui-même sur le mont Sinaï. Et le peuple d'Israël avait entendu sa voix du ciel, bien qu'il se trouvait parmi eux là-bas sur la terre. Vous pouvez lire dans Deutéronome, puis dans Néhémie aussi, qu'il a fait entendre sa voix du ciel, et a manifesté sa gloire sur la terre. Néhémie, chapitre 9, du verset 13. Tu es descendu sur le mont Sinaï. Tu leur as parlé du ciel et tu leur as donné des instructions justes, des lois sûres, de bonnes ordonnances et des commandements. Ainsi, nous voyons que Dieu est descendu du ciel sur le mont Sinaï et y a révélé sa gloire et a parlé à son peuple. Alors, bien-aimés, quand vous entendez que nous chantons des cantiques qui, d'une certaine manière, louent le sang, le mentionnent, nous devons simplement dire, sans lui, sans le sang, il n'y aurait pas eu de rédemption, pas de pardon, pas de salut. Et il faut simplement être assez honnête pour dire que toutes les lois et tous les commandements sont magnifiques, parfaits et merveilleux. Mais ils n'ont pas pu rendre un homme béatifié. Ils n'ont pas pu sauver qui que ce soit. Ils n'ont fait que lui transmettre et lui donner des prescriptions et tout ce qui s'y rapporte. La vie éternelle vient de Dieu. Le Seigneur qui a pris forme humaine en Christ. Le jour viendra en effet pour les élus d'Israël et ils regarderont celui qu'ils ont percé, transpercé et se lamenteront. Il n'y aura pas d'autre Messie assis sur le trône de David. Il est le fils de David et en ce jour-là, il est dit dans Zacharie chapitre 12 d'une manière si merveilleuse du verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire tous les peuples. Tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Tout au long du passé, il semble que Dieu ne s'est pas soucié. Mais depuis que le peuple d'Israël s'est rassemblé de toutes les nations et que depuis 1948, il est un État indépendant, un pays que personne ne peut nier depuis lors. Non seulement il semble, mais depuis lors, Dieu s'occupe de la cause de son peuple Israël. Et vous avez vu qu'à chaque guerre, ils n'ont pas seulement gagné, ils ont gagné en plus. Et c'est très important. Ici, il est dit plus loin, verset 9, « Alors je m'efforcerai de détruire tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem. » Maintenant, le verset 10, « Ensuite, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de demande de grâce, de sorte qu'ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Et ils le pleureront comme on pleure sur un fils unique, et ils le pleureront amèrement comme on pleure sur la mort d'un premier-né. En quel temps cela arrivera-t-il? Au moment où le Seigneur détruira tous ceux qui sont allés contre Israël, lorsqu'il s'efforcera de mettre fin à leur existence. En ce temps-là, il déversera l'esprit de grâce sur Israël. Et le jour que je voudrais en fait vivre d'en haut, où le peuple d'Israël, les vrais juifs, ceux qui se sont accrochés à ce que tous les prophètes ont annoncé, lorsque soudain, la couverture sera ôtée de leur cœur et de leurs yeux et qu'ils reconnaîtront ce Messie, ce Jésus de Nazareth était le même qui avait parlé à nos pères sur le mont Sinaï comme l'ange de l'Alliance dont parle Malachie au chapitre 3, verset 1. Que pensez-vous qu'il arrivera? Ce sera un tel chagrin, de tels pleurs. Et ils diront, Seigneur, si nous avions su, nous n'aurions jamais fait cela. Nous ne t'aurions pas méprisé, nous t'aurions accepté. Oh, pardonne-nous, aie pitié de nous pour être passés ainsi à côté de toi. Et le Seigneur dira, comme Joseph l'a dit à ses frères, ne vous disputez plus, ne pleurez plus, ne vous découragez pas. Tout cela est arrivé à cause de vous. Il essuiera toute larme de leurs yeux et se manifestera aux siens d'une manière tout à fait miraculeuse. Ce n'est pas encore le moment, mais cela peut être demain. ce sera peut-être déjà demain. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le temps. Aujourd'hui, les ennemis ne sont pas encore vaincus. Aujourd'hui, les Israélites ne peuvent pas encore le voir. C'est prévu dans le plan de salut de Dieu. Nous ne pouvons que nous exclamer avec le grand homme Paul, que tes voies sont merveilleuses, ô Seigneur, que tes pensées sont incompréhensibles. Qui peut comprendre tout cela? Ce n'est qu'à l'aube de l'éternité. Lorsque nous pourrions alors regarder en arrière, que nous comprendrions tout. Pas une question ne restera sans réponse pour l'éternité. Tout sera clair devant nous. Nous saurons pourquoi telle ou telle chose s'est passée de telle ou telle manière et nous pourrons louer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur. Qu'il nous bénisse et soit avec nous tous. En fait, je voulais encore me référer très brièvement à l'encouragement du dimanche matin. Vous l'avez tous entendu. Quelle grâce, quel privilège que le Seigneur parle encore, qu'il soit vraiment, je l'avais même mis quelque part pour m'en souvenir et je ne le vois déjà plus, mais nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous allons regarder, voir ce que nous avons entendu. Nous n'avons pas entendu des contes de fées, nous avons entendu la parole de Dieu. La parole prophétique avec toutes les promesses qui sont oui et amen. Et nous verrons ce que nous avons cru. Dieu est un Dieu fidèle et miséricordieux qui tient sa parole et ses promesses. Que son nom soit loué et exalté. Amen. Puis nous nous levons et prions encore brièvement. Je te remercie de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole. Qui sommes-nous? De la poussière devant ta face. Et pourtant, tu nous as pris de la poussière. Comme tu as formé Adam, tu nous as formés. Et tu as mis en nous la vie éternelle. Je te remercie pour l'espérance vivante que nous avons par toi, le Dieu vivant, le Seigneur qui s'est manifesté dans la chair et qui a payé le prix. Nous ne sommes pas rachetés par des choses périssables, ni par de l'argent, ni avec de l'or, mais avec ou alors par le sang de l'agneau de Dieu. Seigneur bien-aimé, nous te prions pour nos amis bien-aimés, pour nos frères, Sauveur, comme nous compatissons avec eux, car le salut vient des Juifs. Ô Seigneur, nous te louons, que tes voies sont merveilleuses. Dieu Tout-Puissant, toi qui as appelé Abraham, confirmé la promesse en Isaac, établis l'alliance avec Jacob et décrété pour tout Israël. Tu es le seul vrai Dieu. Nous t'adorons, c'est toi que nous adorons et nous te rendons gloire. Seigneur, notre confiance repose en toi. Et nous savons déjà que lorsque tous abandonneront le peuple d'Israël, lorsque personne ne sera à leur côté, lorsque les armes ne seront plus livrées, alors tu interviendras. Tu feras pleuvoir du ciel le feu et le soufre et tu extermineras les ennemis. Que ton nom soit loué. Tu l'as annoncé par la bouche de tes saints prophètes. Tu l'accomplis, alléluia. Ah Seigneur, fais-le bientôt et fais-nous savoir que la fin est proche, mais aussi le commencement. Alléluia. Car c'est ce que dit le prophète Ésaïe. Le matin vient, mais aussi la nuit. Les deux viennent. L'un pour celui-ci, l'autre pour celui-là. Oh, nous t'adorons. Tu es grand et merveilleux. Tes voix sont magnifiques et incompréhensibles. Et pourtant, nous pouvons te louer. Je te remercie également pour le psaume que nous avons pu entendre au début. Tu es le berger. Pas seulement le berger, mais le bon berger. Alléluia. Gloire et honneur à ton nom. Tu as donné ta vie pour les brebis et c'est pourquoi elles te suivent et écoutent ta voix. Adoration et gloire à ton Saint-Nom. Amen.